Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous, nous allons tout à nouveau ouvrir un texte qui va situer notre méditation spirituelle ce matin. Alors, on va procéder à une réflexion, une petite étude biblique, et je vais simplement lire un verset, et puis ensuite on va dérouler toute l'histoire, si vous voulez bien, ça m'évitera de relire deux fois, comme on a l'habitude souvent de le faire. Alors, livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 1er, qui nous remémore certaines vérités fondamentales de la Bible, vérités essentielles de l'enseignement biblique et évangélique. On va le développer maintenant, si vous voulez bien. Alors, 1 Samuel, chapitre 15, verset 1er. Samuel, le prophète. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Samuel rappelle à Saül, eh bien, une chose essentielle pour tout croyant d'hier et d'aujourd'hui, chrétien que nous sommes maintenant, d'écouter ce que nous dit Dieu. Voilà, Dieu parle, ça on en est convaincu. Il nous a parlé pour nous appeler. Il nous a parlé pour nous sauver. Il nous a parlé pour nous guérir, pour nous consoler. Et je crois que le Seigneur, si nous sommes attentifs, nous parle tous les jours, par sa parole, par les indications du Saint-Esprit, par un frère ou une sœur, par les dons spirituels, de mille et une manières. Écoute donc, dit Samuel à Saül, tout simplement ce que dit l'Éternel. Quelques versets plus loin que je retrouverai tout à l'heure avec vous, Dieu dit à Samuel, Saül, n'observe point mes paroles. Ça, c'est Dieu qui constate. Un ordre est donné. Dieu constate que finalement, eh bien, c'est le contraire qui se passe. Saül, n'observe point mes paroles. Et puis, un petit peu plus loin encore, c'est Samuel qui va voir Saül et lui dit ceci. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel, ton Dieu? Alors, ça fait beaucoup d'écoute, ça, hein, ou ça fait beaucoup de non-écoute, d'une manière ou d'une autre. Le roi Saül règne depuis à peu près environ 2 ans sur Israël. 2 années. 2 années de règne, et il faut le reconnaître, quand on compulse un petit peu l'histoire de ce roi, premier roi donc d'Israël, il a déjà un passé chargé de questionnements. On se dit, mais c'est un homme qui a été mis à part parmi tous ces hommes vaillants d'Israël. Dieu va demander à Samuel de oindre comme roi d'Israël. Dieu va changer le cœur de Saül. Il va devenir à ses heures prophète. Donc c'est quand même un appel de Dieu. Il y a quand même quelque chose qui démarque. Mais dès les premiers 7 jours, relirez ça chez vous, je ne peux pas revenir sur tout, mais dès les premiers 7 jours, Saül n'en fait qu'à sa tête. Il, pour raison d'impatience, pour raison de gloriole, d'honneur mal placé, il se dit « Moi, je suis le roi, maintenant je fais ce qu'il me plaît, je fais ce que je veux. » Et on s'aperçoit que dès le départ, eh bien, il y a vraiment de grandes questions pour la suite. Et j'aimerais justement mettre l'accent sur ce texte ce matin, sur la vraie et la fausse repentance. Ne nous faisons pas d'illusions. Il y a une vraie repentance qui procède de l'action du Saint-Esprit et il peut y avoir des ersasmes, c'est-à-dire des caricatures de repentance, que l'on peut appeler la pseudo, c'est-à-dire une fausse repentance. Et j'ai pu titrer ce message ce matin « Repentance contrefaite ». Et s'il y en a un qui donne bien l'image d'une repentance contrefaite, trafiquée, dénaturée, c'est bien le roi Saül. Alors, je reprends. Samuel dit à Saül, c'est moi qui t'ai envoyé, que Dieu m'a envoyé pour toi, un roi sur ton peuple. Écoute donc l'Éternel. Je reviens, écoutez ce que Dieu dit. Se traduit de deux manières possibles, soit par l'obéissance, ou soit par la désobéissance. Et cet exemple éclatant que nous avons devant les yeux, eh bien, c'est tout simplement ce que nous allons pouvoir prendre en considération. Nous avons besoin, nous, en tant que chrétiens, d'avoir du discernement. On en a parlé la semaine dernière, des dons de discernement, dons de paroles de connaissance, paroles de sagesse, savoir faire le distinguo entre ce qui vient de ce qui est humain, de ce qui est divin et de ce qui est malin. Alors, l'homme est au milieu et il est très agile. Enfin, il est soit obéissant ou alors il est agile pour faire croire que finalement les choses sont ainsi alors qu'elles sont autrement. Et cet exemple éclatant, eh bien, nous l'avons à travers un rappel que Dieu va donner, un rappel divin, et il va transmettre par le prophète, eh bien, les devoirs royaux, du roi Saül, et ça se décline à travers les versets suivants. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, c'est Dieu qui parle à Saül, va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Alors je vous dis le reste, c'est aujourd'hui pour des hommes du 21e siècle après Jésus-Christ, c'est vrai que ça nous met un petit peu mal à l'aise quand même. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes et enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alors c'est vrai que ça nous révulse, ça nous retourne complètement et totalement. Maintenant, il fallait savoir, et il faut savoir, premièrement, si Dieu dit à Saül le roi, parce que c'est lui qui est quand même l'autorité principale du peuple d'Israël, avec ses armées, avec ses hommes, etc., c'est que si Dieu dit ça, c'est que Dieu sait très bien la perversité, la traîtrise, l'occultisme, la méchanceté d'Amalek. De toute façon, il y a toujours un retour au mal. Et on se souvient également qu'à la sortie d'Égypte, les Hébreux, qui étaient sans armes, un peuple d'esclaves libérés, sans armes, sans armée, a été traîtreusement attaqué dans le dos par Amalek, qui a voulu passer au fil de l'épée le peuple libéré d'Israël qui allait vers le pays de Canaan. Et ça, Dieu s'en est souvenu. Et les temps ont passé, beaucoup de temps ont passé, et maintenant qu'il y a un roi en Israël, alors il dit au roi, maintenant tu vas régler ce vieux contentieux, parce que c'est une vieille histoire qui n'a jamais été réglée, maintenant que tu es un roi, maintenant que tu es une armée, malgré que tu es le chef du peuple, par-delà que tu es le chef du peuple, moi je te demande finalement d'en finir avec ce problème d'Amalek pour que demain il ne recommence pas à vous exterminer et à vous mettre finalement, vous pourrir la vie, parce que c'est ça. Alors naturellement, quand on lit ça, ça donne un peu la nausée. Voilà, donc je vais pas trop m'étendre sur la chose, parce que ça c'est quand même la barbarie de l'Ancien Testament. On peut parler de barbarie, de cruauté, etc. Mais bon, voilà. Le Nouveau Testament, c'est tout le contraire. Fais du bien à ton ennemi. Bénis-le. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui du pain. Donc, on est quand même dans un autre régime. C'est le régime de la loi. Aujourd'hui, nous sommes dans le régime de la foi et de la grâce. Je tiens à remettre un peu les choses en place pour pas qu'il y ait de confusion dans notre esprit. Alors, va maintenant. Donc, tu fais ce que je te demande. Tu dévoues par interdit toute la nation d'Amalek. Et voilà que, si on va plus loin, Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül, le roi, marcha jusqu'à la ville d'Amalek. Il mit une embuscade dans la vallée. Et puis après, il y a toute une suite de miséricordes qui arrivent en ce qui concerne les Kéniens. Mais Amalek est visé pour être finalement anéanti. Une obéissance du roi. Ça commence toujours par une obéissance. Toujours. Oui, Seigneur. Mon fils, va travailler dans mon champ. Oui, oui. Vous connaissez la parabole de Jésus, une des plus petites paraboles de l'évangile de Luc, hein? Oui, oui, j'y vais. Et puis il y va pas. Et il dit oui. Une obéissance apparente. Alors, une obéissance, jusqu'ici, mais on n'est qu'au début, accomplie. Mais il y a un mais. Et ça va être la révélation finalement de la personnalité, malheureusement, encore une fois, de Saül. Mais. Alors, on va passer au verset 7. Saül bâtit Amalek jusqu'à Avila, jusqu'à Tchour, qui est en face de l'Égypte. Donc il a vraiment poussé très très loin. C'est une victoire, c'était quelque chose de un combat glorieux et les choses ont été faites. Alors, Saül prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en passant au fil de l'épée, en le passant par le fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, le roi étranger, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon, et ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif, tout ce qui ne comptait pas. De fait, Saül obéit à Dieu. Il remporte la bataille et il va exécuter sa redoutable mission d'extermination. Mais à un moment donné, il va garder vivant le roi Agag. Il se dit, moi je suis roi. Moi Saül, je suis roi. L'autre c'est un roi aussi. C'est pas n'importe qui. Il le garde vivant alors que Dieu lui avait demandé et en premier de d'éliminer la tête pensante et l'autorité de ce pays de mécréants. Donc, un roi vivant et un peuple qui passe au fil de l'épée. Ah, ça, c'est une drôle d'affaire. Dans tous les conflits qu'il peut y avoir dans le monde qu'il y a eu, c'est souvent le peuple qui paie la facture. Les pauvres poilus. Tous ceux que l'on envoie et qu'on leur demande rien, et si ça vise de demander quelque chose, eh bien, on les passe par les armes, parce qu'on dit que ce sont des traîtres, ils veulent pas aller au combat, ils veulent pas se battre. Et puis, dans les hautes sphères, finalement, militaires et politiques, alors à ce moment-là, tranquille. Alors, nous voyons que cet ordre a été donné par le prophète Samuel à Saül, mais il y a une pédagogie derrière. C'est que l'ordre de Dieu qui a été donné au roi met à l'épreuve la fidélité de Saül. C'est pas autre chose. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? Il l'a fait! Est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il ne va pas le faire? Mais nous avons affaire à un personnage qui ne fait qu'avec des demi-mesures. Il garde la monoclatura du pays d'Amalek. Mais par contre, tous les autres, ils y passent. Tout ce qui est chétif, tout ce qui ne tient pas debout, enfin même si ça tient debout, mais c'est pas intéressant, tout ce qui est méprisable, alors là, sans pitié, on passe tous, tout le monde passe au fil de l'épée. Mais nous sommes confrontés avec les demi-mesures, vous comprenez? Est-ce qu'un chrétien doit avoir des demi-mesures sans être un intégriste et un fanatique? Je dis bien, je précise, parce que nous n'avons pas à être fanatiques et intégriste. Nous n'avons pas à ressembler à Jéhu, qui lui passait tout au fil de l'épée, les bons, les mauvais, c'est ce qui s'est passé dans la ville de Béziers au XIIIe siècle ou au XIIe siècle, quand à un moment donné, on a voulu détruire les cathares, et puis il y a un général qui est passé par là, de l'armée du pape, parce que c'était ça à l'époque, le pape bénissait, et puis voilà, peu importe. Et on a, à un moment donné, quelqu'un a dit, ben vous les tuez tous, il y avait 30 000 habitants à Béziers, et vous les tuez tous, Dieu saura reconnaître les siens. Dis donc, wow. Alors vous savez qu'une mentalité comme ça, si la fin justifie les moyens, ben c'est abominable, c'est une exécration, on ne peut pas dire autre chose. Enfin, je vous raconte cette petite histoire parce qu'elle est quand même assez mémorable. Les demi-mesures de l'obéissance du roi Saül. Et là j'ai précisé, demi-mesure dans l'obéissance. Est-ce qu'un chrétien peut faire l'impasse de dire oui et de dire non à Dieu, pas aux hommes mais à Dieu? Est-ce qu'il peut se permettre de dire « Oui, j'ai bien compris, Seigneur, mais voilà, je n'en ferai que la moitié, parce que ça me déplaît le reste. Parce que je veux faire comme je pense, comme je veux, tout simplement. » Et vous avez remarqué, à un moment donné, au verset 9, et je le relis, « Mais Saül et le peuple épargnaient Agag, les meilleurs brebis, etc. » Je ne vais pas le relire naturellement. Voilà. « Mais !» Cette petite coordination entre la phrase précédente et la phrase qui suit. Ça, c'est une réflexion. Mais, parce que la suite est beaucoup plus équivoque, et on se rend pas toujours compte, parce que c'est l'obéissance à Dieu, c'est pas l'obéissance à l'Église, c'est pas l'obéissance au pasteur, ça je mets ça de côté, tout ça c'est humain. Mais l'obéissance au Seigneur, quand nous sommes convaincus que Dieu nous a fait quelque chose, qu'il nous a dit quelque chose, et que nous en faisons la moitié, ou les trois quarts, ou tout simplement, une toute petite fraction, en disant « il sera content avec ça, le Seigneur ». Voilà. Alors, c'est équivoque, parce que normalement Agag, il aurait dû passer les meilleures brebis, et puis voilà que les choses sont ainsi. C'est une désobéissance ou une obéissance? On peut pas dire, c'est quand même assez troublant tout cela. Mais pourquoi Saül n'a-t-il pas exécuté Agag? Parce que c'était lui le roi, c'était lui qui devait mourir en premier. Voilà. Tout simplement, parce que ça dévoile un trait de son caractère à Saül, c'est que Saül n'a pas exécuté ce roi ennemi, car il voulait avoir, tout simplement, l'honneur et la gloire d'exposer lui-même un roi vaincu, en disant « Regardez, je suis le roi, j'ai vaincu Amalek, et c'est grâce à moi, le héros de la bataille, c'est moi !» Et les héros de la bataille, c'est quand même ces soldats, comme si ça s'était fait tout seul. Ouais. Et puis, le héros de la bataille, c'est pas seulement Saül, c'est pas seulement son armée, c'est Dieu qui a permis finalement qu'il y ait un triomphe total sur les ennemis d'Israël. Et là, faut pas se méprendre. On ne vole pas à Dieu, on ne prend pas à Dieu ce qui lui revient. Et nous, en tant que chrétiens, voire même un pasteur, quel qu'il soit, tout doit revenir pour la gloire du Seigneur. Jésus nous le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, il faut que ça rentre, à quelque niveau que nous soyons. J'ai, non. C'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Jésus nous le dira dans l'évangile de Luc, quand vous avez fait tout ce que vous deviez faire, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Merci Seigneur de ce que tu l'as dit. Heureusement que tu l'as dit, parce qu'il y en a beaucoup qui font le contraire. Quelquefois on se dit, mais on se demande pourquoi Jésus a parlé, dans un domaine ou dans un autre. Alors notre brave Saül s'était dit, mon peuple va être derrière moi parce qu'il va voir que je suis vraiment le champion, et que là, ce trophée... je leur présente, et vous savez, comme les empereurs romains, quand ils arrivaient à soumettre leurs ennemis, ils les faisaient venir à Rome, et l'empereur, ou le chef militaire qui avait vaincu, il mettait le vaincu par terre, la tête sur le pavé, et il mettait son pied dessus. Enfin, c'était des manières pas très polies et pas très respectueuses, quand il lui écrasait pas la tête, mais bon, voilà. Donc, on sent qu'il y a quelque chose, ce sont les prétentions. C'est l'orgueil de Saül qui est en train de être nourri, parce qu'il avait déjà fait des coups dans cet ordre-là. Dieu sait tout et il voit tout. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. On appelle ça l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. C'est théologique. On va aller un peu plus loin. Et les deux versets qui suivent, 10, « L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Alors Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il était pour rien, le brave Samuel. Mais il aimait. Il avait de l'affection pour Saül. Eh oui, il avait quelque chose au fond de son cœur pour Saül. Nous constatons le repentir divin. Est-ce que Dieu se repent comme nous, nous nous repentons? Non. Dieu se repent parce qu'il y avait un plan, un bon plan pour Saül, le roi, le premier roi d'Israël, et que finalement, Dieu regrette, si on peut dire ça, hein, c'est pas des mots qui sont appropriés pour Dieu, mais Dieu regrette que devant la proposition, devant là les dons qu'il avait reçus, devant l'appel qu'il avait reçu, le roi Saül, que quelque part, c'est pas Dieu qui va faire défaut, c'est Saül qui va faire défaut. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est très dommage. Parce que Saül ne va pas rentrer dans le plan de bénédiction et le plan de la grâce de Dieu. C'est comme ça que Dieu, c'est cette repentance qui nous est présentée. Et c'est la consternation du prophète Samuel. Parce que Samuel n'a rien demandé. C'est le peuple qui a demandé un roi. Vous voulez un roi, vous en avoir un. Ensuite, Dieu va déléguer Samuel en disant, tu vas lui mettre de l'huile, une fiole d'huile. Il le fait. Mais je pense que Samuel, dans cette affaire, va se faire une amitié, il va avoir de la tendresse pour cet homme inexpérimenté, mais qui ne veut pas apprendre. Le problème, il est là. Alors, on apprend au verset 12 que Samuel, devant ce déplaisir de Dieu et du sien, il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné en passant plus loin, et il est descendu à Gilgal. Ah ! Encore quelque chose qui nous interpelle. La victoire a été prise, mais qu'à moitié, enfin, on peut dire que c'était pas tout à fait dans la pensée de Dieu. Et à un moment donné, il va avoir cette sinistre idée de se faire construire un monument. Vous savez que tous les grands hommes dans l'Antiquité et encore aujourd'hui, présidents de la République et autres, quand ils règnent, ils veulent marquer finalement leur passage sur la terre avec un monument. Notre cher Napoléon Bonaparte, lui s'est fait un arc de triomphe. Non mais je prononce bien, hein. Alors, il s'est fait un arc de triomphe et puis bien d'autres choses. Un président de la République s'était fait donc la grande bibliothèque à Paris, la pyramide, voilà, enfin bon, toutes sortes de choses. Hein. De Gaulle s'était fait le Concorde et puis le France. Aujourd'hui, ils sont, voilà, bon, peu importe, ça passe. Hein. Mais bon, peu importe, on se fait quelque chose pour dire, voilà le grand homme que j'étais. Je veux que dans la mémoire de ceux qui viendront après, ils se souviennent de moi. Est-ce que se souviendra de tous? Ça, c'est une autre affaire. Un monument, certains commentateurs avaient dit, un monument en forme de main, comme un roi païen, parce qu'il y avait un roi païen qui avait fait une main comme ça, un monument. Et soi-disant, les commentateurs, ils avaient marqué finalement, eh bien là, le nom de ses soldats, etc. Et de ses victoires, enfin, il n'y en avait pas beaucoup pour l'instant. Hein. Donc, un monument, mais pourquoi faire un monument? Est-ce que Jésus nous a laissé un monument? Il nous a laissé un sujet, c'est la croix. Alors on en trouve partout dans le monde, hein, parce qu'on les a démultipliés. Hein. La vraie croix, elle est ici, la vraie croix, elle est là-bas et tout ça. Tout petit, hein. Il reste plus grand-chose, hein, parce qu'on a tellement séparé. La vraie croix, elle a disparu depuis longtemps. Hein. Et qu'est-ce que c'est? C'est pas un monument de gloire, c'est un monument de honte, la croix. De sacrifice. Un monument de mort. Mais à travers cette mort, eh bien il y a la vie. Il y a la résurrection. Donc il se fait un monument, notre brave, en disant « on se souviendra de moi ». Ça, c'est sûr qu'on s'en est souvenu, parce qu'il est encore marqué dans la Bible. Mais c'est un indice flagrant de son narcissisme. Vous savez ce que c'est? Narcisse dans la théologie grecque. Narcissisme. Je suis le plus beau, je suis le meilleur, je suis le plus intelligent. Vous l'avez remarqué. Ben, je parle pas de moi, mais vous l'avez remarqué. Narcissisme. Et de son élévation orgueilleuse à en perdre la tête. Il n'y a rien de plus terrible quand un homme qui s'élève finit par perdre la tête. Moi, 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 je. Ah, c'est terrible ça. Ah oui. Alors nous allons passer maintenant rapidement, on va faire un zoom, sur le cas de Saül. Le verset 13 est assez fourni en explication. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit « Sois béni de l'Éternel !» Oh, il est content. Il voit son ancien ami, le prophète. Il est content, il le salue. Voilà. « Sois béni de l'Éternel !» Il l'était, hein, assurément, Samuel. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que là, il y avait quand même un petit éloignement de la bénédiction pour lui. « Sois béni de l'Éternel !» Et il ajoute ceci, comme s'il avait, il avait besoin de boucher un trou, là. « J'ai observé la parole de l'Éternel. » Ah, mais tu peux être sûr, hein. Tu sais ce que tu m'as dit. Mais toutes les paroles, mais moi, je les ai pris à cœur. Et véritablement, je me suis investi jusqu'au bout pour que aucune parole de Dieu ne tombe à terre. Ça vous rappelle aussi autre chose, hein. Ouais. Comment on appelle ça? Du mensonge. Non? Vous êtes silencieux. Mais c'est du mensonge. Et il veut tromper le prophète de Dieu. Enfin, que ce soit lui ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est quand même du mensonge. Alors, les choses sont présentées de cette manière. Et c'est quand même assez ennuyeux. Parce que ce verset, eh bien, c'est le témoignage de deux choses. Constater, si on fait un peu de psychologie chrétienne, enfin, biblique, de la personnalité de Saül. C'est le témoignage, mes frères et sœurs, d'abord de l'inconscience de Saül, et deuxièmement, de la gravité de sa faute qu'il ne mesure pas. Inconscience, il est comme un enfant, et de la gravité de sa faute et d'un mensonge éhonté. J'ai observé toute la parole de l'Éternel. Ah oui, ça c'est vrai peut-être aux oreilles des hommes, mais pas aux oreilles de Dieu. C'est pas tout à fait la même chose. J'ai observé. Et voilà que la suite est cocasse. Elle est même risible, la suite. Parce que certains ont dit, si vous voulez vraiment tromper les gens et leur mentir, vous leur faites des gros mensonges et ils n'y voient rien. Oui, plus le mensonge est gros, moins les gens y... Voilà. Et Samuel lui répond à cela, mais qu'est-ce donc que ce bêlement des brebis qui parviennent à mes oreilles, qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement des bœufs que j'entends. Saul répondit, alors on le verra d'ici quelques instants, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, il faut apprendre que la vérité ou le mensonge se vérifie toujours par des faits. Et vous savez qu'il y a un proverbe qui dit que le fait est têtu. Quand vous avez un fait devant vous, une preuve devant vous, ben vous pouvez pas récuser, parce que vous l'avez vu, parce que c'est ça. Et je crois que là, à ce moment-là, il y a bien des gens qui sont pris au tribunal et qui disent, ben voilà, devant les faits, ils peuvent rien faire, ils sont obligés d'avouer. Ils sont obligés d'avouer. Dans Galates, il nous est dit que celui qui sème, ben, s'il sème bien, c'est bon. Mais si c'est mal, il va en récolter finalement les retours. Parce que c'est une vérité criante que soulève à ce moment-là Samuel, quand il parle des bêlements, des mugissements. C'est même une vérité criante, et même bêlante et mugissante, hein, on peut pas dire autrement. Hein. Il avait la preuve. Je t'avais dit de les tuer, c'est bête. Et si elles sont encore vivantes, c'est qu'elles sont pas mortes. Vérité de la palisse. Hein. C'est une la palissade. Voilà. Et à partir d'ici, Saül s'enfonce dans le marécage de ses contradictions. Vous savez, quand on dit la vérité, on n'a pas à rougir. Quand on dit la vérité, même si elle est difficile à dire, même s'il nous faut du courage pour dire la vérité. Voilà, j'ai péché, je me suis trompé, j'ai fait ceci et cela. On en ressort toujours avec, finalement, eh bien, de l'honneur. Mais quand on commence à tomber dans la spirale d'inventer toutes sortes de manigances, toutes sortes de choses, mais on s'enfonce et Saül ne voit pas qu'il est en train de s'enfoncer dans ses contradictions. Mais par contre, Samuel, il s'en rend bien compte, lui. Il s'en rend bien compte. Au verset 15, Saül répondit, alors là, c'est assez cocasse, parce que quand on ne veut pas parler des choses nommément, on dit « il » ou « on ». On. Moi, ça m'est arrivé d'entendre des gens en voulant pas donner la personne. On, ceci, cela. Qui est on? Qui est on? Parce que c'est bien gentil, hein, mais alors on garde une certaine anonymat en disant c'est pas moi, c'est pas lui, etc. Mais on. Donc tout le monde est coupable. Alors, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. C'est là où il va falloir faire attention, mes frères et sœurs, dans la suite du message. Écoutez bien, ça c'est important, je voudrais le souligner. Saül use d'une grossière disculpabilisation, voilà. Vous savez quelquefois ça m'arrive, hein. Mais remarquez, il faut dire que les mots, ils sont très longs. Hein. C'est la faute des autres. C'est pas la sienne. C'est un beau prétexte vraiment indigne d'un roi. Parce que ça aurait été un manant, ça aurait été autre chose. Bien que c'est un tout homme qui ment, c'est pas beau. Mais c'est le roi. Et nous avons après, c'est assez truculent quand on lit les choses, c'est que dans ce prétexte, on va le revoir, hein, ils les ont amenés, dis donc, hein, c'est quand même toi qui as donné l'ordre, toi le roi, hein, de les amener. Parce que le peuple a épargné les meilleurs. Non, mais c'était lui qui avait épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs. Faut pas raconter des histoires non plus, hein. Il veut crever les yeux de tout le monde, là, Saül, hein. Et avec la raison qui paraît tellement pieuse, qui paraît tellement sacrée, qui paraît tellement sainte, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Alors là, ça se complique. Et ça se complique sérieusement, parce que là, on n'est plus du tout dans la vérité. Hein. Absolument pas. Dieu vient de révéler la nature et les turpitudes, tout simplement, eh bien, de Saül à Samuel. Il est dit, l'Éternel m'a dit. C'est Samuel. L'Éternel m'a dit. Parce que Dieu parle. Dieu avait parlé à Saül, Dieu avait parlé à Samuel, mais moi je crois qu'aujourd'hui, Dieu parle aussi aux enfants de Dieu, qui sont conséquents, qui ont la droiture de cœur. Et ça fait partie des dons dont nous avons parlé, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Alors, il faut pas tomber dans l'extrême, parce que vous savez qu'il y a des drôles de prophètes qui se servent de « Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, il m'a parlé pour toi » et tout ça. Alors on les laisse de côté parce que ce sont des imposteurs. Ce sont des troubles conscience. Ce sont des gens qui pêchent en troublant l'esprit et la conscience des enfants de Dieu. On les laisse de côté parce qu'ils font pas partie du peuple de Dieu. Ce sont des ennemis de la croix. Mais par contre, il y a dans nos vies, eh bien, des moments où Dieu nous dit ce que nous devons savoir. Moi, j'ai toujours pris l'habitude avec mon épouse quand on prie, Seigneur, que je sache ce que je dois savoir et ce que je dois pas savoir, c'est pas la peine que je le sache. Et je voudrais vous dire que ça marche. Il y a parfois des décisions et des responsabilités qui incombent à la fois aux anciens et aux pasteurs, parce que c'est l'avenir de l'Église qui est en jeu. Et je pense que c'est quelque chose dont nous devons tenir compte. Samuel dit, Dieu m'a dit. Et ce que Dieu dit à Samuel, c'est la vérité. C'est pas autre chose. Et nous nous apercevons que Samuel, avec ce que Dieu lui a dit, il va essayer de rafraîchir un peu la mémoire de position du roi. Il va lui rappeler, mais Dieu t'a oint. Hein. Tu n'es pas un simple Israélite, mais Dieu t'a oint. Donc, tu as été choisi par Dieu. Parce que finalement, eh bien, Dieu t'a mis de côté. Et tu as une responsabilité. Et une responsabilité qui est beaucoup plus grande que tout le reste du peuple d'Israël. Vous savez, ce que nous pouvons avoir, c'est pas nous, hein, c'est Dieu qui nous l'a donné. Alors, faut pas s'en glorifier. Hein. Ça, c'est clair. Et nous voyons qu'il y a une persistance et il y a une résistance chez le roi Saül. Et il va faire preuve du mensonge de l'illusion, parce qu'il s'est renfermé dans un cliché, il s'est fermé dans un schéma qui était le sien. Moi, je suis roi, je suis roi, je suis tout puissant, je peux tout faire. Et il s'est renfermé dans... C'est ce que j'appelle le message de l'illusion et de la malhonnêteté réitérée. Verset 20. Lorsque tu étais petit à tes yeux, verset 17, hein, n'es-tu pas devenu le chef des tribus quand tu étais humble, hein? Maintenant que tu es devenu orgueilleux, tu es devenu n'importe qui, n'importe quoi. Et tu fais n'importe quoi. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel, ton Dieu? Pourquoi étais-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, c'est affligeant. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Waouh. Je reste calme. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Saül cherche des boucs émissaires. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est toujours l'autre. Il cherche. Et le bouc émissaire, c'est qui? C'est le peuple. Quand un pasteur fait une faute, ah bah oui, mais c'est de la faute de l'Église. Voilà. Et puis ceci et cela, etc., etc. Ça n'en finit pas. Dans les cours de récréation, vous avez tous été dans une cour de récréation. C'est une belle école, la cour de récréation. On apprend beaucoup de choses. On apprend à la grossièreté dans les cours de récréation. C'est l'école à côté de l'école, vous comprenez? Hein? Et il m'a donné un coup de pied dans ma jambe, dans le tibia. Ah, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Toujours l'autre. Enfin, celui qui l'a reçu, il sait qui c'est, hein, parce que ça lui fait mal, naturellement. Chercher les boucs émissaires et tentatives aggravantes de se justifier en prétextant que c'est le peuple qui a fait ça. C'est lui qui a pris les belles brebis et puis les beaux agneaux et puis les beaux bœufs, etc., etc. Et vous avez remarqué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et moi. Ça, c'est pas mal. Alors, on va dire quelque chose qui est une vérité intangible maintenant. C'est que la fausse piété, tel que Saül en fait la démonstration, on appelle ça tout simplement, eh bien, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la repentance contrefaite, la pseudo-repentance, la fausse piété hypocrite, c'est le contraire du culte spirituel. Alors, je m'explique. Le culte spirituel, c'est le culte en esprit en vérité. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit en vérité. Comme je pense ce matin, tous, avec un cœur sincère et véridique, nous sommes venus faire un culte et apporter un culte au Seigneur, en vérité. Ça, c'est le culte spirituel. Et ce culte spirituel est supérieur au culte cérémoniel. Vous voyez la différence? On ne s'est pas rassemblé ce matin pour une cérémonie religieuse. On est venu ce matin pour célébrer la gloire de notre Dieu, de notre Sauveur, mais d'une manière en esprit, en vérité, avec un cœur qui est purifié par le sang de Jésus. Parce qu'attention, hein, vous savez que ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9 sur la Sainte Cène, on ne joue pas la comédie. On ne peut pas. Ce culte cérémoniel, permettez-moi de le rappeler ce matin, et sans aucune valeur, si l'obéissance et le sacrifice de notre volonté, notre moi, notre dépouillement, notre renoncement à nous-mêmes, eh bien, n'est pas mis sur l'autel. Abraham sur le mont Morija, Jésus sur la croix, à travers toutes sortes d'autres choses, l'apôtre Paul et toutes ses souffrances. Ça, il faut le comprendre, on ne joue pas la comédie. Il faut qu'avec notre conversion, nous avancions dans une profondeur spirituelle, rechercher les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Ça, c'est le culte cérémoniel, le culte religieux. S'offrir à Dieu, notre moi, est un vrai sacrifice. Paul l'écrira en lettres de feu dans Romains chapitre 12, verset 1er. Offrez à Dieu vos corps comme un culte agréable au Seigneur. Soyez renouvelés par votre intelligence. Je le dis en substance comme ça. On va bientôt finir. Alors, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel le Seigneur m'envoyait. Dites donc, hein. Il y a des chemins, mais il faut dire qu'il y a des méandres aussi. Hein. Et le chemin de Dieu, il est droit. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Dieu n'a rien à faire avec ça. C'est même, pensant lui apporter un sacrifice d'agréable odeur selon les termes de l'Ancien Testament, je pense que là, à ce moment-là, nous offrons à Dieu une abomination. Parce qu'on va voir la suite. On va voir ce qu'il en est. Et le réquisitoire qui vient après est sans appel. Les mots le justifient, versets 22 et 23, et on y va, on va le lire. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. C'est une catastrophe. Quand on sait qu'il avait été promis pour être un roi béni, le voilà un roi maudit. Mais c'est pas Dieu qui l'a maudit. C'est lui-même. Lui-même. Parce que Dieu ne maudit pas. Dieu bénit. Désobéissance, divination, résistance, idolâtrie. Vous savez que le règne de Saül a été un règne où il a combattu l'idolâtrie et les sciences occultes et tout ça. Et vous savez comment il a fini? Il a fini par se précipiter auprès d'une médium à Andorre, à la frontière espagnole. Non, c'est pas celui-là. Hein. Andorre, c'est en dessous de Sodome et Gomorre, par là, dans la région. Et 2 jours après, il mourait parce qu'il a tracté. Après avoir combattu l'occultisme, il a tracté avec les puissances mauvaises et puissances ténébreuses. Et 2 jours après, il est mort avec son fils sur le mont de Gilboa. On ne touche pas à l'occultisme, mes frères. On ne fait pas de spiritisme. On ne touche pas à la divination. On ne touche pas à ces sciences occultes. C'est strictement interdit. Et ça, vous le savez. Et peut-être ceux qui se sont engagé sur cette foi-là, cette voie-là, à un moment donné, après avoir reçu finalement la connaissance que c'est non seulement mauvais, mais c'est interdit, quelquefois ils y ont laissé leur peau. On ne touche pas. Notre Dieu, c'est notre Dieu qui est au ciel, c'est le Dieu d'amour et de lumière, c'est le Dieu de Jésus-Christ, mais c'est pas toute cette idolâtrie et ces faux cultes, à travers la magie, à travers l'occultisme et toutes ces choses-là, c'est dangereux. C'est plus que dangereux, parce que c'est coupable. Vivre en la vérité, vivre la vérité, vivre dans la vérité, c'est important, et la vérité pour nous y conduire, c'est la parole de Dieu qui va nous l'enseigner et le Saint-Esprit par ses indications qui va nous guider à travers tout cela, qui va le confirmer. Je finis. La sanction. Parce que Saül ne cesse de désobéir, eh bien il fait la preuve évidente que de son incapacité à régner sur Israël. Dieu voulait avoir un roi qui soit un ami, que le roi soit l'ami de Dieu, et que ce soit aussi le contraire, comme viendra plus tard David, qui sera appelé l'homme selon le cœur de Dieu, l'ami de Dieu David. Pour terminer, c'est plus grave encore, il nous apprend encore une autre leçon catastrophique et pitoyable. Plus grave encore, c'est le simulacre de la repentance. Et là, ça ne plaisante pas. Simulacre de la repentance, le verset 24 à 27. Je le lis. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché et j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Tiens, c'est curieux. Normalement, c'était la voix de Dieu qui devait écouter. J'ai écouté sa voix. « Maintenant, je te prie, s'il te plaît, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau et le déchira. Samuel va lui confirmer, « L'Éternel déchire aujourd'hui au-dessus de toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui sera meilleur que toi. » Dixit, vous savez déjà qui c'est qui possède après, hein? C'est David. Ah, pauvre David, il va en voir de toutes les couleurs, hein, mais bon, il sera roi. Les paroles, les confessions sans fondement, les promesses en l'air ne suffisent pas, il faut la vérité dans le cœur. Quand il dit, mais je me repens, mais je me mets devant toi, mon brave Samuel, je ne sais pas quoi faire maintenant pour racheter ma faute. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il met tout à plat, là, d'un seul coup, hein. Permettez-moi de dire que moi, je vois en Saül un comédien. Et un comédien en grec, ça se traduit par hypocrite. Vous savez, il n'a pas peur de la faute, hein. C'est pas la faute qui lui fait peur, c'est le châtiment de la faute. Et il y a bien des chrétiens quelquefois qui se comportent comme ça, et de dire, ah oui, mais bon, j'ai fait une faute, mais qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Ben, on ferait mieux de se repentir parce que Dieu pardonne complètement, il oublie tout. Moi, j'ai toujours dit, et je le dis encore ce matin, vous savez, quelquefois, les chrétiens ont plus peur du pasteur que de Dieu. Ben moi, je dis, vous avez tort. Vous auriez mieux plutôt avoir peur de Dieu que pas du pasteur, parce que moi, je peux rien. Hein. C'est vrai. Alors ça, c'est à réfléchir. Hein. Et il va devenir violent à ce moment-là, Saül. Il va devenir violent à cause de son dépit. Il a saisi le manteau de Samuel, et il l'a déchiré. Voilà la violence qui arrive derrière. Voilà qu'il n'arrive plus à se contrôler. Il n'arrive plus à se contrôler dans ce qu'il fait, dans ses gestes. Il est tellement dépité à ce moment-là, parce que Samuel ne répond pas à son appel. Il reste sourd à ses appels, parce qu'il sait très bien que c'est de la comédie. Et puis, on peut pas entretenir la comédie. Hein. C'est pas possible. Alors, à ce moment-là, il prend le manteau. Attention à ma veste quand je veux sortir. Hein. Mais toujours est-il qu'il va le déchirer. Et il fait violence à Samuel à ce moment-là. Mais ce n'est que le début de la violence du roi Saül. Parce que David va savoir ce qu'il en est de la violence. Et puis il y en a d'autres qui vont savoir ce que c'est. Parce que ça va être un roi cruel. Ça va être un roi qui va égorger tout le monde après. C'est le sauf qui peut du perdant. Celui qui veut gagner. Et qui veut gagner à tout prix. Au prix du mensonge. Et de la mauvaise foi, eh bien voilà ce qui arrive. Samuel lui dit, l'Éternel donc déchire aujourd'hui ta royauté. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Samuel dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens et de mon peuple, et en présence d'Israël. Reviens à moi, et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Misère. Bricolage, rabibochage, raccommodage. Les trois mamelles. Non, je me trompe avec Henri IV, là. Non, non. C'est la commedia dell'arte. De la fausseté. De la fausseté. Honore-moi, reviens avec moi, j'adorerai l'Éternel. Et un peu plus loin, il nous est dit, et ça va être la fin. Tout simplement. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül adora l'Éternel. Mais il ne nous est pas dit que Samuel a adoré l'Éternel avec Saül. Eh oui. C'était une illusion, c'était un culte de cérémonie et non pas un culte spirituel. Ça nous rappelle un peu, vous savez là, l'histoire des deux frères qui vont se chamailler dont l'un va mourir, Caïn et Abel. Eh bien on est dedans, si vous voulez, c'est tout à fait ça. Saül adora l'Éternel, c'est l'adoration d'un hypocrite. Saül croit jusqu'au bout, détourné, le rejet causé par sa faute, par un acte extérieur d'adoration. Les gens pourront toujours se rendre à l'église, ils pourront toujours aller à la messe, ils pourront toujours célébrer n'importe quoi dans toutes les religions. Si véritablement il n'y a pas ces principes de vérité, de justice, de rectitude de cœur et de droiture à l'intérieur, ça ne sert à rien. Ils pourront toujours rentrer, ils pourront toujours sortir du temple, ils pourront toujours mettre une somme d'argent et des sommes considérables. Mais c'est pas notre argent que le Seigneur a besoin, c'est notre cœur. Et un cœur qui soit purifié, adoré avec un cœur impur et tordu. Est-ce que c'est possible? Ben oui, on sait possible puisqu'on l'a vu avec Saül. Je termine sur deux choses, mais bref, parce que quand je parle, je peux plus m'arrêter. Bon, je m'arrête bientôt, hein, parce que je vois que vous avez faim. Non, c'est pas ça. Alors, 2 Corinthiens, je vous lis ce texte parce qu'il est fondamental. C'est Paul qui le dit. Il est dit ceci, à un moment donné. 2 Corinthiens, chapitre 7. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous apportait à la repentance. Et là, on voit qu'il n'y a aucune tristesse chez Saül, hein. Jovial, hein. Très bien. Hop, j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Donc. Mais que votre tristesse vous apportait à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu. Selon l'Esprit de Dieu. On s'est converti. Vous savez comment ça s'est passé? Pour certains d'entre nous, on est tombé. On a pleuré sur nos péchés et on a dit « Seigneur, c'est plus possible que je vive comme ça maintenant, donne-moi une autre vie, pardonne-moi mes péchés. » Et Dieu nous a pardonnés. Afin de ne pas recevoir de votre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance. Soyons tristes selon l'Esprit de Dieu, mes frères. L'action de Dieu qui va nous amener à voir que nous sommes des pauvres, que nous sommes misérables, que nous sommes indigents et que nous ne sommes pas finalement, comme Saül qui était un vaniteux et un orgueilleux. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Quand on s'est repenti il y a des années, moi je me suis pas jamais repenti et regretté d'avoir donné mon cœur et ma vie à Dieu. Et ça fait quelques années déjà de ça. Ça produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse selon le monde... Eh bien, elle produit la mort, la tristesse et le remords, le regret. Et ça, ça nous fait mourir à petit feu. C'est ce que Saül n'a pas compris, naturellement. Et puis, je terminerai par ce psaume qui est l'apothéose de la repentance, qu'on a appelé le psaume de la repentance. Je vous lis quelques versets, psaume 51, vous savez. C'est David, hein. Quel visage différent, un Saül et un David, hein. 51, verset 4. C'est une prière de David. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et un dernier verset que vous connaissez bien. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. On va prier pour que Dieu nous remplisse d'un esprit de bonne volonté. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne de nous tenir devant lui. N'ayez pas peur de Dieu. Si nous marchons dans la vérité, dans la justice, avec ce que nous pouvons, nous ne sommes pas des super champions comme Saül, mais avec humilité et modestie, mais le Seigneur continuera à nous bénir, à bénir son Église et nous donner ce dont il nous a promis, la royauté dans le ciel. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes princes et rois avec Jésus-Christ. Seigneur, je veux te rendre grâce et je te remercie pour ta parole. Elle est suffisamment explicite lorsqu'elle est nourrie par l'action de ton Saint-Esprit pour que nous comprenions ce qui est bien et ce qui est mal. Nous voulons te demander, Seigneur, que ton Église, tes Églises, puissent réaliser, Seigneur, qu'à travers l'enseignement, eh bien là, il y a véritablement la volonté de Dieu d'une bénédiction, pas d'une bénédiction temporaire, mais une bénédiction éternelle. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Merci pour cette figure de Saül qui nous montre ce qu'il ne faut pas. Et merci pour la figure de David qui nous montre celui qui est appelé l'ami de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. alors nous rangeons du côté de David. Et permet, Père éternel, que notre cœur puisse être régénéré par l'action de ton Saint-Esprit, et cela tous les jours. Que mon esprit, mon propre esprit, soit l'ami du Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.